VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Eric Manilakis en direct du studio 13 de la Voix de l'Amérique. Vous écoutez la troisième édition de la soirée du monde aujourd'hui, vendredi 17 mars 2017. D'abord, les points qui dominent votre actualité. Drame migratoire en mer Rouge au large du Yémen. Une quarantaine de réfugiés somaliens ont péri.
Le drame est survenu après que l'embarcation des réfugiés a été visée par une attaque armée.
Jacques Aristide raconte les circonstances de cette nouvelle tragédie. Et la justice sud-africaine inflige un nouveau revers à Jacob Zuma. Elle annule sa nomination d'un chef de la police. Ils ont cotisé pendant plus de 30 ans, mais ne peuvent pas toucher leur pension de retraite.
Où sont partis les frais de cotisation sociale retenus à la source par la Gécamines de ses anciens agents?
L'argent retenu n'a jamais été versé à l'Institut de sécurité sociale. Vous entendrez Narval Mabila à Lubumbashi. Washington n'exclut pas une action militaire contre Pyongyang pour anéantir sa menace nucléaire. Et première tête à tête entre Angela Merkel et Donald Trump à la Maison-Blanche. Et à suivre après le journal L'économie et les sports. L'itinéraire migratoire africain frappé par une nouvelle tragédie. Plus de 40 réfugiés somaliens ont été tués hier soir par des tirs en mer Rouge au large du Yémen. Les victimes sont pour la plupart des femmes et des enfants. Le bilan fait aussi état de 35 blessés. Le Yémen est ravagé par la guerre qui n'empêche pas pour autant l'afflux de migrants qui fuient la misère et les violences de la Corne de l'Afrique. Jacques Aristide.
Les corps des victimes somaliennes ont été transportés dans les hôpitaux de la ville portuaire de Hodeïda, théâtre en ce moment de violents combats entre les rebelles chiites houthis et les forces favorables au gouvernement yéménite. Le drame est survenu après que l'embarcation des réfugiés a été visée par une attaque armée. Pour l'heure toutefois, le lieu et les circonstances exactes de l'attaque demeurent inconnus, les belligérants au Yémen se renvoyant la responsabilité. Les rebelles qui ont pris possession du bateau à son entrée aujourd'hui dans le port de Hodeïda l'ont immédiatement imputé à l'aviation de la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite. Mais d'après son responsable portuaire, les morts et les blessés ont été atteints par des tirs d'armes légères, ce qui semble exclure une attaque aérienne. Et d'ajouter que des dizaines d'autres Somaliens qui ont survécu à l'attaque, ainsi que trois trafiquants yéménites arrivés à bord de l'embarcation, ont été conduits vers la prison centrale de la ville. À Genève, un porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations dit croire que l'embarcation faisait route vers le Soudan. Au moment de l'attaque, le bureau à Sanaa du Haut Commissariat pour les réfugiés se dit profondément affligé par le drame. En dépit de la guerre et de la crise humanitaire qu'il traverse, le Yémen continue d'attirer des réfugiés de la Corne de l'Afrique. Plusieurs camps de réfugiés somaliens existent dans le sud du pays, mais aucun dans la région de Hodeïda, située plus au nord.
Les pirates somaliens qui se sont emparés lundi du pétrolier Aris 13 ont libéré hier le navire et ses 8 membres d'équipage sri-lankais qui retenaient en otage. Selon un responsable pour l'Afrique de l'Est de l'ONG de lutte contre la piraterie, Oceans Beyond Piracy, les gardes-côtes du Puntland, région semi-autonome de Somalie, ont fait aux pirates une offre qu'ils ne pouvaient refuser. C'était la première attaque réussie d'un navire commercial au large de la Somalie depuis 2012. Ce navire s'est dirigé vers la ville portuaire de Bosaso, capitale économique du Puntland. Un chef militaire d'un groupe armé pro-gouvernemental malien a été tué par des inconnus à Maneka, dans le nord-est du pays. Deux suspects ont ensuite été arrêtés. En Ouganda, le porte-parole de la police Andrew Kawesi a été abattu ce matin à Kampala à bord de son véhicule. Il était accompagné de 2 autres policiers qui ont aussi succombé dans cette attaque menée par des hommes lourdement armés. Le mobile est encore inconnu selon l'inspecteur général Kale Kayihura. Au Soudan du Sud, 2 personnes sont mortes dans l'attaque armée, contre un convoi humanitaire. 3 autres ont été blessés. L'Organisation internationale pour les migrations a dénoncé l'insécurité chronique des attaques dont sont victimes les humanitaires qui tentent de venir en aide à la population de ce pays frappé par une famine. Et au Burundi, des pluies torrentielles mêlées à des vents violents ont fait au moins 6 morts dans 3 localités du pays. Ces pluies ont provoqué des glissements de terrain et des débordements d'eau caniveaux. Plusieurs provinces du pays ont été touchées. Pour le moment, l'on compte également 162 maisons détruites. Mais le bilan des dégâts serait très lourd. Le vice-président Gaston Sindimo a parlé d'une véritable catastrophe. Et les services de sécurité marocains ont arrêté 15 personnes soupçonnées de liens avec le groupe djihadiste État islamique et actif dans une dizaine de villes du pays. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, les suspects ont menacé de mener des attaques visant certains sites sensibles comme des espaces de loisirs et services publics dans plusieurs villes marocaines, dont Casablanca, Marrakech ou Tanger. Nouveau revers pour le président sud-africain Jacob Zuma. La justice a annulé la nomination du patron de l'unité d'élite de la police du pays en charge des crimes de sang et de corruption les plus graves. Abdourahmane Dia.
Le général Bernard Lemesa avait été nommé en 2015 par le gouvernement à la tête de la direction des enquêtes sur les crimes prioritaires. Mais un tribunal l'avait précédemment jugé malhonnête et manquant d'intégrité il y a 2 ans. Il a notamment été reconnu coupable d'avoir menti sous serment. Malgré ce jugement défavorable, le ministre de la Police l'avait quand même nommé à la tête des Hawks. Donc deux associations ont saisi la Haute Cour de Pretoria et ont obtenu gain de cause. Selon la Haute Cour, le ministre n'a pas évalué correctement le jugement rendu par le précédent tribunal, ni apprécié les doutes sérieux qui pesaient sur son aptitude à occuper ses fonctions. Depuis quelques années, la police sud-africaine est secouée par une série d'affaires qui ont mis en cause plusieurs de ses chefs dans un pays affecté par une forte criminalité. En 2015, sa chef Ria Fiega avait été suspendue après le massacre de Marikana 3 ans plus tôt, au cours duquel 34 mineurs en grève avaient été abattus par la police.
La candidate d'extrême droite à l'élection présidentielle française se rend au Tchad en milieu de semaine prochaine. Marine Le Pen rendra visite aux soldats de la force française Barkhane et rencontrera les militaires français mercredi 22 mars au Kigé de la force N'Djamena. Le Parlement du Niger va enquêter sur une vente présumée douteuse d'uranium nigérien baptisé Uranium Gate. La transaction du 12 décembre 2011 a donné lieu à un virement de 319 millions de dollars des comptes à Paris d'une société de patrimoine des mines du Niger vers un compte à Dubaï de la société libanaise Optima. Et le Parlement angolais a reporté son vote final sur un projet de loi controversé réprimant l'IVG. Ce texte a même fait l'objet de vives critiques de la part de la fille du président José Eduardo dos Santos. L'avortement est puni de peines allant jusqu'à 10 ans de prison, mais le précédent texte le permettait, notamment lorsque la vie de la mère est en danger ou en cas de viol. Ces exceptions ont été retirées du texte.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Je vous le disais dans les titres, premier tête-à-tête entre la chancelière allemande Angela Merkel et le président américain Donald Trump, qui a affirmé qu'il n'était pas isolationniste. Leur rencontre a été sanctionnée par une conférence de presse que Nathalie Barge a suivie pour vous.
Je ne suis pas un isolationniste, je suis un partisan du libre-échange, mais aussi du commerce équitable. Et notre libre-échange a conduit à beaucoup de mauvaises choses en termes de dettes et de déficits, a déclaré Donald Trump. De son côté, Angela Merkel a dit espérer la reprise des négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. Au plan de la défense, M. Trump a affirmé avoir assuré à nouveau la chancelière allemande de son fort soutien à l'OTAN. J'ai redit à la chancelière Merkel mon fort soutien à l'OTAN, tout comme le besoin pour nos alliés de l'OTAN de payer leur juste part pour la défense de l'Alliance, a-t-il souligné. La dirigeante allemande a pour sa part assuré que l'Allemagne devait augmenter ses dépenses dans l'OTAN. Nous nous engageons aujourd'hui à cet objectif de 2% du produit intérieur brut jusqu'en 2024, a-t-elle annoncé, précisant que les dépenses de défense ont été augmentées de 8% l'an dernier. Lors d'un entretien téléphonique en janvier, M. Trump et Mme Merkel avaient souligné l'importance fondamentale de l'OTAN.
Nathalie Barge, Washington hausse le ton contre Pyongyang. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson brandit la menace d'une action militaire pour contenir le programme nucléaire de la Corée du Nord à Séoul. Monsieur Tillerson attire l'attention sur l'échec de la patience stratégique jusque-là privilégiée depuis 20 ans. Salwa Jafari.
La tournée de Tillerson intervient quelques jours après des tirs de missiles balistiques présentés par Pyongyang comme un exercice visant les bases américaines au Japon. Le secrétaire d'État n'a pas manqué de dévoiler la nouvelle approche de Washington.
Soyons très clairs, la politique de patience stratégique est terminée. Nous explorons une nouvelle gamme de mesures diplomatiques, sécuritaires et économiques.
Environ 28 000 soldats américains sont déployés en Corée du Sud, mais la capitale Séoul est à portée de l'artillerie nord-coréenne. La Russie a appelé vendredi les États-Unis et la Corée du Nord à sortir du cercle vicieux de l'escalade militaire. Le Nord a essuyé plusieurs volées de sanctions de l'ONU qui ne l'ont pas incité à changer de politique.
Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Votre moment de suivre l'actualité économique en Afrique, la chronique de la Muniteco avec Claire-Morin Gibourg.
Au Maroc, la cinquième édition du FIAD, le Forum international Afrique Développement, a été lancée. Outil de renforcement de la coopération Sud-Sud, ce forum est placé cette année sous le signe de la croissance inclusive. Inauguré hier par Roch-Marc Christian Caboret, le président du Burkina Faso, acteur privé et public de plus de 20 pays du continent, échange idées et opportunités. Trois entreprises ayant le plus contribué au développement intra-africain vont être récompensées, ainsi que trois jeunes entrepreneurs. Lumière, puissance, action, électrifier l'Afrique. C'est le dernier rapport publié par l'Africa Progress Panel, le think tank dirigé par Kofi Annan. Au sommaire, les kits solaires, depuis les simples lampes jusqu'au système domestique complet capable d'alimenter des équipements électroménagers et les mini-réseaux électriques. Des solutions qui n'ont pas vocation à remplacer, mais à compléter les grands réseaux nationaux afin de combler le déficit énergétique.
Voilà, nous passons au sport avec Dili Dico ce soir. Bonsoir Dili.
Bonsoir Eric.
On parle de la Ligue des Champions, deux rencontres ultimes, n'est-ce pas? Bayern hier à Riyad et Juve Barça.
Tout à fait. Deux finales avant l'heure. Les affiches Bayern-Real et Juve-Barça animeront les quarts de finale de la Ligue des Champions aux côtés des oppositions Atlético Madrid-Leicester et Dortmund-Monaco.
Oui, revenons sur Bayern et Real Madrid.
Alors, ce sont deux équipes qui ont une très longue tradition. Ça pourrait être une finale, selon Emilio Butragueno, représentant du Real. Il a ajouté qu'il aurait aimé affronter cette équipe un peu plus tard, car il s'agit d'une rencontre à risque.
Oui, Dili, tout en parlant de finale avant l'heure, il y a aussi Juve-Barça.
Tout à fait, Eric. Cette affiche était celle de la finale 2015, remportée par l'équipe de Lionel Messi, 3-1. Mais deux ans plus tard, le Barça apparaît moins souverain. Mais son historique remontada face au Paris Saint-Germain, 6-1, au retour après un revers 4-0 à l'aller, a singulièrement rehaussé sa cote.
Et dans l'Europa League, Manchester United qui fait apparemment une bonne affaire.
Manchester United, le grand favori, a hérité d'un adversaire facile sur le papier. Il s'agit d'Anderlecht. Selon le tirage au sort effectué aujourd'hui au siège de l'UEFA en Suisse, le club de José Mourinho aura l'avantage de recevoir au match retour le 20 avril après l'aller en Belgique le 13.
Oui, il y a aussi Lyon en France.
Tout à fait. Pour Lyon qui vient d'éliminer Roma en huitième, la tâche sera moins aisée car l'OL a tiré Beşiktaş. Ils devront donc gérer un match retour bouillant à Istanbul.
Oui, il y aura aussi Ajax d'Amsterdam, Schalker et Celta Vigo. Jack, on passe à la NBA, Dili, championnat de basket.
Oui, alors Golden State a repris sa marche en avant en écrasant Orlando 122-92 jeudi soir. À l'Ouest toujours, quatrième victoire de suite pour les Thunders et Russell Westbrook continue d'affoler les statistiques car pour la 34e fois de la saison, le meneur d'Oklahoma City a terminé le match avec un triple-double lors de la victoire de son équipe à Toronto hier, 123-102.
À l'Est, c'est Cleveland qui maîtrise Utah grâce à LeBron James et au revenant Kevin Love, 91-83. Merci.
Voilà.
Didi.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manilakiza, en direct du studio 13 de la Voix de l'Amérique à Washington pour aborder les dossiers du monde aujourd'hui. En RDC, c'est la première destination. Les retraités de la GECAMINE, la société minière, dénoncent un flou dans l'attribution de leurs assurances sociales. Ils réclament aussi à l'INSS, c'est l'Institut des Sécurités Sociales, le paiement de leurs pensions. Ils affirment avoir régulièrement cotisé durant toute leur carrière professionnelle. Narval Mabila à Lubumbashi nous donne les détails.
Ils sont plus de 800 retraités de la Générale des Carrières et des Mines qui n'arrivent pas à toucher le paiement de frais de pension à l'Institut National de Sécurité Sociale après avoir cotisé pendant plus de 30 ans. Madame Julie Maloba, retraitée depuis 2013, lève la voile.
Aujourd'hui, je devais aller parce qu'on fait la réunion sur Avenue Moreau. Il fallait aller là-bas, sur le bâtiment INTC. On réclame que l'INSS... Chaque pays, l'INSS retirait ce qu'il devait. Toutes les formalités qu'on avait demandées, la mairie.
Sur chaque fiche de paye, la direction de ressources humaines retenait à la source les frais de cotisation sociale destinés à l'Institut national de sécurité sociale qui ne s'est pas payé pour n'avoir jamais reçu les versements des cotisations de la part de la GECAMINE. Monsieur Vincent Depol Kibwe-Kasongo, directeur provincial de l'UNSS, nous donne des explications face à cette situation.
Le problème de la GECAMINE n'est pas très différent de celui de beaucoup de sociétés d'État. En ce qui concerne la particularité du cas GECAMINE, c'est que vous avez remarqué, cela doit remonter à la fin de l'an 2015. Nous avons signé un protocole d'accord avec la GECAMINE, lequel protocole d'accord stipulait clairement qu'au début de l'année qui devait suivre, la GECAMINE devait commencer à exécuter le paiement tel que convenu avec l'INSS pour permettre à l'INSS d'assurer la pension de prestataire. Cela n'a pas eu lieu. Les négociations se sont poursuivies et se poursuivent. Dans l'entretemps, nous ne cessons de recevoir les pensionnés de la GECAMINE, auxquels pensionnés nous expliquons la situation par rapport au fait que le problème se situe plutôt dans les camps de la GECAMINE.
Où sont partis les frais de cotisation sociale retenus à la source par la GECAMINE de ses anciens agents? La direction générale de la GECAMINE, très embarrassée par cette question, a préféré l'omerta. Mais dans les coulisses, la réponse est simple, c'est un dossier interne. C'est un dossier où il y a à boire et à manger. Certains se sont fait engraisser pour taire le dossier et d'autres font l'objet de menaces de mort. Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, l'opérateur de télécommunications Orange a lancé hier ses activités après le rachat d'Airtel Burkina. Les consommateurs de téléphonie mobile et d'Internet espèrent en tirer profit sur les coûts et la qualité des services. Nous retrouvons Zoumana Onogo dans la capitale des hommes intègres, Ouagadougou.
Exit Airtel Burkina et place à Orange Burkina. Qu'en pensent les citoyens?
Je souhaite une bonne arrivée pour Orange, mais je souhaite beaucoup, surtout, on aura réduit la consommation, le prix de la consommation. Vraiment, c'est cher. Tu veux travailler comme Airtel, ça ne va pas marcher.
Pour moi, ce n'est pas le changement de nom qui est important, c'est la consommation. Si c'est moins seulement, on travaille ensemble. L'essentiel, c'est la qualité.
J'ai une puce Airtel qui est devenue Orange maintenant. Mais très souvent, avec la puce-là, j'aime me connecter sur le net. Je trouve souvent que la connexion, c'est pas ça.
Nous avons repris les mêmes critiques sur le coût et la qualité avec le directeur général de Orange Burkina, Ben Cheikh Aïdara. Voici sa réponse.
Payer moins, bien entendu, il y avait ces reproches qui étaient faits à Airtel. Donc aujourd'hui, Orange écoute son marché et va travailler à mettre en place des offres d'abondance, de générosité à travers les bonus Wakati. Et ça, ça va se poursuivre pour que les clients puissent véritablement communiquer à des prix très accessibles et avec une excellente qualité de réseau.
Pour atteindre les objectifs fixés, le directeur général adjoint de Orange annonce des investissements. On écoute Bruno Metling.
Avant la fin de l'année, Orange Burkina Faso va financer un cadre en fibre optique qui va relier, après le câble que nous avons financé vers le Ghana, qui va relier le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire et donc au Mali, et donc une nouvelle liaison qui va sécuriser celle qui existe déjà. Donc pour les citoyens de ce pays, ça veut dire concrètement une amélioration de la qualité de l'Internet. Ça veut dire la capacité à offrir plus de réseaux, d'avoir une meilleure qualité et sans doute d'améliorer encore nos offres sur les prix.
Le rachat des entreprises va souvent avec dégraissement du personnel. Qu'en est-il avec les travailleurs du RTL devenus Orange ? Clotilde Bourri, la directrice des ressources humaines, explique.
On a montré déjà depuis qu'on est là qu'on n'a pas fait de plan d'action pour réduire les effectifs. Les effectifs aujourd'hui sont bien dimensionnés. Il n'y a pas de sujet aujourd'hui sur l'emploi. Tous les salariés qui étaient dans l'entreprise, il y avait 260 salariés le jour où nous avons acquis cette société. Aujourd'hui, il y en a 263. Nous sommes complètement dans la stabilité de l'emploi.
Zoubana Ounogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Le Parlement angolais n'a pas légiféré sur l'avortement, un projet de loi controversé, a fait l'objet de vives critiques de la part de la fille du président José Eduardo dos Santos. En Afrique, plusieurs pays punissent l'IVG de peine de prison. Et au Sénégal, par exemple, des filles mineures victimes de viol ou d'inceste ont été incarcérées. Face à cette situation, l'Association des juristes sénégalaises a mis en place un comité de plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé. Nathalie Barge a joint à Dakar la coordonnatrice de ce comité de plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé à Misako.
Actuellement, la législation sénégalaise est contre l'avortement. Il n'est autorisé que si la santé de la mère est menacée et que c'est la seule intervention pour permettre à la femme de rester en vie.
Donc, en cas de viol ou d'inceste, l'avortement n'est pas autorisé?
Non, non, du tout.
Et quelles sont donc les peines encourues pour les femmes et les filles qui se font avorter donc au Sénégal?
C'est de 1 à 5 ans avec des amendes à payer à l'État. Donc si c'est le personnel de santé ou bien si la personne a eu à le faire à plus de reprises, c'est de 5 à 10 ans.
Et est-ce que vous connaissez des cas justement de jeunes femmes notamment qui sont actuellement en prison pour cela?
Oui, parce que nous avons eu à faire une étude au niveau des prisons des femmes du Sénégal. Et il se trouve que 3% de la population carcérale féminine est dans les prisons pour cause d'avortement clandestin.
Quelle est la tranche d'âge de ces femmes?
C'est entre 40 et 13 ans, parce qu'il y a eu, lors de notre dernière visite, il y a eu des mineurs, deux mineurs qui étaient en prison pour cause d'avortement et pour cause d'infanticide.
Alors parlez-nous justement de votre demande d'autoriser à travers la loi l'avortement médicalisé.
Donc notre demande c'est l'accès à l'avortement médicalisé en cas de viol, inceste et quand la santé de la mère est menacée dans le sens du protocole de Maputo que le Sénégal a ratifié en 2004 et qui est entré en vigueur en 2005.
Vous vous heurtez cependant à l'opposition, à la résistance des oulémas et des religieux catholiques. Qu'y a-t-il à dire à ce sujet-là?
Je ne pourrais pas affirmer ce que vous venez de dire parce qu'au niveau du comité de plaidoyer, on travaille avec le réseau Islam et Population. On travaille avec d'autres réseaux religieux, surtout la religion islamique. Donc, c'est des religieux qui sont avec nous, qui sont d'accord pour le plaidoyer parce qu'ils nous ont dit que dans les conditions que nous voulons avoir l'avortement, l'islam autorise l'avortement. Par contre, pour la religion catholique, ils nous ont dit que leur religion est catégoriquement contre. Là aussi, ce n'est pas la quasi-totalité des religieux qui sont avec nous. Mais en tout cas, il y a des religieux qui nous soutiennent, qui sont avec nous. Là aussi, on est conscient qu'on ne peut pas avoir une loi où tout le monde sera d'accord à l'unanimité, surtout concernant une question sur l'avortement médicalisé. Mais en tout cas, on travaille avec des religieux qui sont d'accord sur le projet de loi.
Ami Sako, coordonnatrice du comité de plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé au Sénégal.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
L'Afrique reste confrontée au problème du chômage. Le rythme de sa croissance démographique excède celui de la création d'emplois. L'entrepreneur nigérien Tony Elumelu estime qu'il appartient au secteur privé d'impulser la croissance économique pour résorber le chômage. Monsieur Elumelu préconise une philosophie qu'il nomme Africapitalisme. Les précisions de Lionel Gahima.
50% des diplômés sortants chaque année des universités africaines se retrouvent au chômage, constate Kevin Balogun, président de Coca-Cola pour l'Afrique centrale, de l'Ouest et de l'Est. Selon l'Organisation internationale du travail OIT, le taux de chômage des jeunes est presque de 12% en Afrique subsaharienne. Les dirigeants africains se sont engagés à réduire le taux de pauvreté sur le continent en dessous de 20% d'ici 2030. Pour l'entrepreneur Tony Elumelu, les entrepreneurs peuvent contribuer à ce projet à travers des partenariats suivant son concept d'Africapitalisme, ainsi qu'il l'a récemment expliqué aux étudiants de l'Université du Ghana. Le partenariat fonctionne mal en Afrique et nous devons trouver une solution parce que l'effort commun est mieux que l'effort solitaire. Je pense que la confiance est très importante. Ainsi, l'agencement des intérêts est la solution clé pour remédier aux échecs de partenariat en Afrique. C'est ici qu'intervient l'Africapitalisme, c'est-à-dire le fait que pour les Africains d'approcher le développement avec une perspective du secteur privé, a souligné Tony Elumelu. Personne d'autre ne développera l'Afrique à la place des Africains, a-t-il dit, ajoutant qu'il faut éveiller la conscience des dirigeants africains à cette réalité. En attendant, les jeunes Africains ne sont pas rassurés par les possibilités d'emploi. John Amoakusi, en programme de master à l'Université du Ghana, dit qu'il retournera à l'université s'il n'arrive pas à se faire recruter par une entreprise.
One of the options is trying to look for PhD.
L'autre option est de m'inscrire à un programme de PhD au Ghana ou à l'étranger. Oui, je veux acquérir de l'expérience. Même souci chez Paris Aloté en première année à l'Université du Ghana.
Je suis très inquiète parce que le chômage n'est pas une bonne chose. Je pense donc trouver une formation en leadership ou trouver un stage ou m'inscrire en master. Faire quelque chose qui va me donner la chance d'accéder au travail.
Le problème de chômage s'est empiré au Ghana suite à 4 années de perturbations de l'approvisionnement en électricité qui ont provoqué la fermeture de beaucoup de commerces et d'entreprises et la perte de milliers d'emplois.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Habibi, pour terminer en beauté et agrémenter votre week-end. Ça a déjà commencé. Et c'est la fin de cette édition à la mise en onde de Lionel Runanira Gahima, à la console de Suleiman Taraware, à la présentation Eric Maniakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité. 24 heures sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.